Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Delouézy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Il est l'une des figures les plus singulières, énigmatiques de l'art occidental. Vous avez comme moi l'impression de connaître ses paysages divers, ses scènes paysannes ou sa tour de Babel. Il s'appelle Pierre Bruegel. Il a vécu au XVIe siècle, en Flandre, pendant une période bien compliquée, une période incroyablement troublée pour l'Europe. Guerre de religion, inquisition, massacre des protestants, débat du Concile de Trente sur les images, grande vague de destruction des images. Pierre Bruegel, dit Pierre Bruegel l'Ancien, ou Bruegel le Drôle, ou Bruegel le Docte, est-il le peintre qui a donné au paysage son autonomie, comme on l'enseignait autrefois, ou au contraire, celui qui a installé dans l'image des pièges, des machineries, des sous-entendus, qui permettraient de dire, comme je l'ai lu dans le livre qui nous réunit ici aujourd'hui, « Il n'y a pas de paysage chez Bruegel, mais des machines picturales pour former l'œil intérieur d'une époque ». En ce moment a lieu à Vienne la première grande exposition sur l'œuvre de cet artiste d'exception. À l'occasion de son 450e anniversaire, et là sont réunis une trentaine d'œuvres, c'est-à-dire presque tout son corpus. Et simultanément vient d'être publié un livre fascinant intitulé Bruegel. C'est un livre en français, il est paru chez Azan, il a été écrit par Reinhard Falkenburg et Michel Wiemans, et il fait le point sur ce débat. Écoutons ce que dit Karel van Mander dans le livre des peintres. C'est un texte du tout début du XVIIe siècle.
La nature fit un choix singulièrement heureux. Le jour où elle alla prendre parmi les paysans d'un obscur village brabançon, l'humoristique Pierre Bruegel, pour en faire le peintre des campagnards. Né dans les environs de Breda, au village dont il prit le nom, pour le transmettre à ses descendants, Pierre Bruegel fut d'abord l'élève de Pierre Cook, dont il épousa plus tard la fille, qu'il avait portée dans ses bras quand elle était enfant. Il passa ensuite chez Jérôme Koch, puis alla en France et en Italie. Les œuvres de Jérôme Bosch avaient fait l'objet spécial de ses études, et à son tour, il fit beaucoup de diableries et de sujets comiques, si bien qu'on le surnomme Pierre le Drôle. Bruegel, au cours de ses voyages, fit un nombre considérable de vues d'après nature, au point que l'on a pu dire de lui qu'en traversant les Alpes, il avait avalé les monts et les rocs pour les vomir, à son retour, sur des toiles et des panneaux, tant il parvenait à rendre la nature avec fidélité. Il se fixa à Anvers et entra dans la guilde en 1551. Un marchand, du nom de Hans Frankert, lui commanda de nombreux tableaux. C'était un excellent homme qui était fort attaché au peintre. À eux deux, Frankert et Bruegel prenaient plaisir à aller aux kermesses et aux noces villageoises, déguisés en paysans. Offrant des cadeaux comme les autres convives et se disant de la famille de l'un des conjoints. Le bonheur de Bruegel était d'étudier ses mœurs rustiques, ses ripailles, ses danses, ses amours champêtres, qu'il excellait à traduire par son pinceau, tantôt à l'huile, tantôt à la détrempe, car l'un et l'autre genre lui étaient familiers.
Michel Wiemans, vous êtes l'un des deux auteurs de ce livre extraordinaire qui vient de sortir chez Azan, mais vous êtes aussi professeur d'histoire et théorie de l'art à l'école de Bourges. Vous êtes un spécialiste de l'art flamand du XVIe siècle. Vous avez été co-commissaire de l'extraordinaire exposition de Lille sur les fables du paysage flamand avec notre ami Alain Tapier, que je salue ici. Et vous avez travaillé avec Jean-Hubert Martin pour cette exposition qui était au Grand Palais, Une image peut en cacher une autre. Dans ce livre, vous vous êtes lancé dans une aventure incroyable et je trouve que vous pourriez réagir contre, tout à fait contre Karl von Mander, que vous citez pourtant à de nombreuses reprises, quand il dit que Bruegel parvient à rendre la nature avec fidélité. Au fond, c'est peut-être l'infidélité de Pierre Bruegel qui vous a intéressé à la guerre de la nature.
C'est l'infidélité, c'est la complexité de ces images, la difficulté à voir. C'est vrai que devant les paysages de Bruegel, on est fasciné par la virtuosité de Bruegel à rendre le moindre détail. C'est ce qui attire tout de suite le regard. Tout paraît simple, tout paraît évident. Et avec mon ami et collègue Reinhard Falkenburg, nous avons voulu prendre un petit peu le contre-pied de cette clarté, de cette évidence qu'on a souvent clamée, et au contraire nous intéresser à ce qui rend la vision difficile, les effets d'enchevêtrement, la marginalisation, la réduction des détails, la prolifération des détails, les zones indéterminées, ce que j'appelais les pièges visuels.
Alors c'est assez passionnant parce que vous dites on se lance dans quelque chose de difficile, on se lance surtout dans quelque chose d'incroyablement excitant. C'est-à-dire que derrière le visible se cachent des jeux d'esprit, des jeux de référence, et que on s'amuse tout au long du livre en découvrant ce que l'on croyait être une évidence et qui est quelque chose de caché. Et alors avec nous, nous avons à votre invitation Sandrine Vézilier-Dussard, directrice du musée de Flandre à Cassel. Alors j'ai d'abord appris, Sandrine, que Cassel était cette année le plus beau village de France.
Le village préféré des Français.
Incroyable. Voilà. Alors, pour ceux qui n'y ont pas été, vous êtes obligés d'y aller désormais. On est entre quoi ? Saint-Omer, Lille, Dunkerque ?
On est entre Lille et Dunkerque, qui est à proximité de la frontière belge.
Et c'est effectivement un très beau village, mais c'est surtout pour ce qui nous concerne ici, à l'art et la matière, une collection extraordinaire. Ça va de Patinir, même avant d'ailleurs, même avant Patinir, jusqu'à l'art contemporain.
Oui,
moi, j'aime bien citer Thierry Decordier, parce que pour moi, c'est un artiste immense.
Grand artiste, effectivement.
Voilà. Et alors vous, vous êtes une grande spécialiste, évidemment, de l'art des Flandres. Vous êtes en train de préparer une nouvelle exposition sur Bruegel, ou liée à Bruegel.
Il y a Bruegel, effectivement, puisque c'est la fête et la kermesse au temps des Bruegel, puisqu'il y a la question du père et des fils sur la problématique des fêtes et des kermesses. Voilà, Bruegel a eu véritablement un rôle central. On peut parler d'une quasi-révolution, mais ce fameux Peter Bruegel l'Ancien a puisé son inspiration sur ce qui existait déjà. Voilà. Et ses fils vont reprendre, et le succès finalement des fêtes bruegeliennes, on le doit à Peter II Bruegel, au fils.
Au fils, oui. Alors, nous irons tous au mois de mars pour voir cette exposition, puisque
merci.
C'est une très bonne occasion de découvrir Cassel pour moi, je n'y ai pas été d'ailleurs, et je vous prie de m'en excuser. Et je pense que le village sera ravissant à ce moment-là, la collection sera ouverte, l'exposition sera là, enfin ça va être super. Je crois que vous êtes, et je crains que vous soyez d'accord, et ça m'embête un petit peu pour l'émission, j'aurais aimé que vous soyez en désaccord,
on va voir.
Mais est-ce que, moi j'ai, quand j'étais étudiant, et peut-être vous aussi, beaucoup plus tard, vous avez peut-être appris que Bruegel était quelqu'un qui donnait au paysage son autonomie, qu'enfin on voyait la nature pour elle-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réinterprétation qu'on est en train de faire ?
Bruegel est effectivement dans la continuité. Je pense que là-dessus, on est d'accord avec Patinir, Henri Maître de Blesse, enfin tout. Voilà, l'autonomie du paysage, elle est déjà là avant Bruegel, je pense. La révolution Bruegel, si on peut s'exprimer ainsi, c'est ce rapport à la nature qui est extrêmement précis. Si vous regardez les feuillages de Bruegel, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression que les troncs vibrent, les feuillages aussi. On n'est plus du tout dans le même registre que Henri Maître de Blesse, Matthes Koch ou Patinir. Et puis Bruegel va quand même avoir cette innovation, c'est de placer l'homme dans le paysage. C'est-à-dire que le sujet biblique, le sujet religieux n'est plus là, et il va avoir cette audace-là. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on a montré Bruegel comme étant le peintre des paysans. L'homme est dans le paysage, et il y a vraiment une fusion entre l'homme et la nature. Et je crois que c'est pour ça aussi que les paysages de Bruegel émeuvent toujours et autant.
Mais au fond, le rapport entre l'art et la nature, je dirais que l'art l'a souvent eu dans les années qui précèdent. Vous avez cité des noms de grands artistes, mais est-ce que quand on voit un paysage de Patinir, par exemple, dont vous parliez, qui est à quelques années près, il est quoi, on est 40 ans avant Bruegel à peu près?
Oui, à peu près, oui. 1551, oui, à peu près.
À peu près.
Patinir meurt en 25, je crois. Donc, oui. À peu près.
25 le et il est.
Voilà.
Donc, je suis pas très loin, quoi, pour le cœur de l'œuvre.
Une à deux générations de peintres.
Il y a une observation de la nature qui est extraordinaire, mais on a tendance à considérer que c'est des paysages qui sont imaginaires, néanmoins. En dépit du talent du rendu, si je puis dire, on est dans le réalisme de la nature ou on est dans l'imaginaire de la nature? Michel, allez, à vous de jouer.
Je
voudrais pas que vous soyez d'accord.
Hein. Je crois que là-dessus, Van Mander est assez clair, parce qu'il a utilisé deux formules qui ont été très célèbres et souvent reprises. Hein. Le nar et leven, sur le vif, donc c'est vraiment...
Comment vous dites?
Nar et leven, d'après la vie.
D'après nature.
D'accord.
Donc, c'est le début d'une pratique qui consiste à les dessiner sur le vif, et à utiliser ensuite ces dessins pour composer des paysages en atelier. Mais l'autre expression, c'est « uit den geest », donc « d'après l'imagination ». Ces deux dimensions sont constamment entrelacées. Et ça, dès le départ. Dès les paysages de Bosch, ensuite chez Patinir, chez Blesse et
flamand.
Chez Bruegel.
C'est Sandrine,
c'est typiquement flamand. Ça va être une constante de toujours jouer sur l'imaginaire et la réalité. C'est intrinsèque à l'esprit flamand. Donc,
Sandrine, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Madame la directrice, vous dites que donc il y a l'imaginaire, c'est-à-dire oui. Comment est-ce qu'un rocher va devenir un support moral,
oui. Hein,
et puis il y a le symbolisme, c'est-à-dire que est-ce que chaque objet n'est pas seulement imaginaire ou seulement réel, mais est-ce qu'il n'est pas le vêtement d'un sens?
C'est compliqué parce que il y a tellement de mystères autour de Bruegel, déjà par rapport à sa vie. Il y a tellement d'œuvres où on sent qu'il y a une codification qu'on aurait après tendance à vouloir tout expliquer par ce prisme-là.
C'est ce que fait le livre. Hein.
Oui, je sais. Donc, je comprends cette tentation, voilà, de détricoter. Mais en ce qui concerne le paysage, il y a quand même cette... quand vous voyez pour la première fois un paysage de Bruegel, vous êtes mais complètement absorbé. Vous êtes complètement immergé. Et c'est un talent de Bruegel, une force, une virtuosité, vous l'avez dit, de toucher le réel, même s'il y a une part d'imaginaire. Voilà. Vous êtes homme, et en face de vous, vous avez les chasseurs, hein, c'est le retour de chasse de Vienne, et vous êtes avec les chasseurs, vous êtes en haut du promontoire, et vous découvrez la vallée. Donc après, effectivement, on peut aller dans... la codification, mais il faut pas oublier cette première impression, ce premier niveau de lecture qui, à mon sens, est fondamental.
Michel, c'est ce que vous pensez aussi, c'est que il y a d'abord une attention au réel qui nous fait rentrer dans les scènes.
Voilà, et les deux ne sont pas incompatibles.
Oui.
Moi, je ferai un détour par une notion qui, je pense, permet de répondre et qui a été élaborée par les premiers historiens de l'art qui ont étudié ces paysages, les historiens de l'art allemands. Au tout début du XXe siècle, on forgeait cette notion que je trouve très belle de Weltlandschaft, paysage-monde. Quand vous regardez un paysage de Bruegel, vous avez tout de suite mis le doigt sur les rochers. Si vous allez en Flandre, des montagnes rocheuses comme on en voit dans les tableaux de Bruegel, on en voit
oui,
assez peu. Hein, c'est le plat pays.
C'est plus plat, ouais.
Ça veut dire que les paysages de Bruegel, comme ceux avant lui de Patinir et de Hérimède de Blesse, ne reflètent pas tant un morceau de nature qu'ils ne sont le reflet d'une conception de la nature. Une conception de la nature qui est profondément chrétienne et que résume une métaphore qui était extrêmement répandue, qui est celle de livre de la nature. C'est-à-dire l'idée que la nature reflète la grandeur et la variété du Créateur. Et que chaque lettre, c'est-à-dire chaque brin d'herbe, presque chaque animal, chaque élément des paysages de la nature, porte un message, renvoie au Créateur.
Est-ce que cette expression qu'il y a souvent dans le livre, que vous appelez les vestigia, c'est la façon de voir le signe de Dieu et l'enseignement de Dieu dans la nature?
Exactement. Et c'est là qu'intervient cette notion. Nous avons construit notre livre, donc il y a deux essais, autour de deux notions clés, qui sont celles de spéculation et celles de piège. C'est là qu'intervient justement cette notion de spéculation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre ce terme au sens moderne. Il y a bien sûr la spéculation au sens de pensée abstraite, théorique, opposée à la pratique. Ce n'est pas évidemment la spéculation au sens économique qui domine aujourd'hui. C'est une utilisation, un sens de la spéculation qui est devenu courant et qui a été élaboré par les auteurs au cours du Moyen-Âge et que l'on trouve toujours jusque chez Ortelius, chez les auteurs de la dévotion moderne et chez les auteurs humanistes de l'époque de Bruegel.
Rappelez-nous ce que c'est que la dévotion moderne, parce que
je ne me souviens pas. La dévotion moderne, c'est un courant de pensée religieuse qui a eu une grande importance et une grande influence sur la peinture flamande du XVe et du XVIe siècle, même si c'est un mouvement qui marque tout le XIVe siècle. Mais les auteurs ont été abondamment réédités jusqu'au XVIe siècle. Et c'est un courant de pensée religieuse qui met l'accent sur la dévotion privée et qui déjà critique l'aspect ritualisé, institutionnel de la religion, ce que fera plus tard Érasme.
Alors, avant de se plonger dans l'interprétation des tableaux, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, Sandrine, vous qui avez une maîtrise comme ça globale de cette période, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est dans Bruegel naît dans les Flandres, c'est une période pas très simple. Est-ce que la réforme est en train de naître? Luther vient de mourir. Où est-ce qu'on en est?
Alors déjà, on ne sait pas tout à fait la date de sa naissance, hein, 1525, 1530, voilà, on ne sait toujours pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de mystères. En 1551, Bruegel donc devient maître à la guilde donc d'Anvers, des peintres.
C'est en revenant d'Italie, parce que je crois qu'il a fait un voyage en Italie, non?
C'est après qu'il va en Italie.
Ah, il va après.
Voilà, les historiens ont longtemps débattu hein, sur le fait qu'il était l'élève de Peter Cooke d'Alost.
C'est qui?
Alors Peter Cooke d'Alost est un peintre très important pour cette première moitié du XVIe siècle. Il va mourir en 1550 et il va épouser la fille de Peter Cooke d'Alost. Donc, vous voyez, ça reste vraiment dans le milieu familial, parce que finalement, les œuvres de Peter Cooke d'Alost, qui sont encore empreintes d'un certain maniérisme, avec des tableaux, d'adoration, généralement des bergers, des mages, les triptyques, sont quand même très différents des productions de Peter Bruegel. Mais il y a quand même des liens, puisque la femme de Peter Cooke d'Alost, qui n'est autre que Maiken Verhulst, pratiquer la détrempe et celle qui va enseigner la détrempe et surtout le travail.
Qu'est-ce que c'est,
la détrempe, c'est le travail donc sur la toile et non pas sur le bois, puisque les peintres flamands ont une prédilection pour les huiles sur bois. Et puis surtout, elle a un travail de miniaturiste qu'elle va enseigner au fils de Peter Bruegel, Jan Bruegel. Et ça, on le sait par Karel van Mander. Donc, on sent finalement qu'il y a des liens très forts entre Peter Cooke d'Alost et puis Peter Bruegel. Il est très probable, maintenant, je crois qu'à la majorité, alors je ne sais pas pour vous, hein, Michel, mais la majorité des historiens de l'art qui s'accordent pour dire qu'il a fait un passage, et peut-être pendant un certain temps, chez Peter Cooke d'Alost.
C'est un peintre extrêmement bien formé déjà.
Extrêmement bien formé. Peter Cooke d'Alost est un peintre érudit qui a fait le voyage en Italie, qui est allé en Turquie et c'est peut-être lui qui l'a incité à faire le voyage en Italie dans les années donc 1553-1554. On le sait parce qu'il y a des dessins qui témoignent de ce voyage. Karel van Mander dit qu'il passe par la France, mais bon.
On dit qu'il est passé à Lyon.
Voilà, qu'il est passé par la France.
Surtout, il
a fait la traversée des Alpes. Voilà. Et de cette traversée, il va revenir avec des dessins. Et il va en faire des gravures.
Dites-moi, Sandrine, c'est quand même étrange. Moi, je m'attendais, quand je regardais dans le livre les dessins qui ramènent d'Italie, à voir des ruines comme celle de Piranèse, des sculptures, l'architecture. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel?
Vous avez commencé l'émission avec cette citation de van Mander, qui est très forte.
Ah, qui est très jolie.
Qui parle du voyage en Italie et qui dit que lors de sa traversée des Alpes, il aurait avalé les monts Et les aurait ensuite vomis à son retour sur ses panneaux et sur ses toiles. Alors c'est une métaphore très, très puissante, hein, c'est une image très, très forte, pour signifier un geste très audacieux et extraordinaire de Bruegel, puisque à la différence de ceux qu'on appelait les Fiamminghi, tous les peintres flamands qui, depuis les années 20-30, allaient en Italie, ça faisait partie de la formation.
Vous voulez dire 1520, parce que 20-30, pour moi, c'est l'école du palais de Tokyo, l'expo universelle, et ça. D'accord.
Mes étudiants font souvent la remarque.
20-30, 16e siècle, oui.
Donc, Heemskerk, Franz Floris, etc., revenaient d'Italie avec des dizaines, des centaines de dessins d'après les grands maîtres de la Renaissance, Raphaël, Michel-Ange, etc. Que ramène Bruegel de son voyage ? Des dessins de paysages. Donc, c'est un geste extrêmement fort, extrêmement puissant. Il n'empêche qu'il a probablement été, hein, c'est ce qu'on suggère aussi, que ce voyage a été suggéré, commandité, on ne sait pas, par son éditeur Jérôme Koch.
Oui, parce que éditeur de gravures, puisque voilà. À ce moment-là, la connaissance se fait par les gravures. Je vous propose, avant qu'on enchaîne sur le voyage en Italie, d'écouter une seconde ce que dit Roland Recht sur ce sujet. Écoutons Roland Recht, c'est un article qu'il a fait dans Libé en 95, hein, c'est très vieux, c'était en réaction au bouquin de Franck Castel.
De ce paysage panoramique, dont le peintre s'est fait une spécialité à l'occasion de son voyage d'exploration en Italie, voyage qui n'avait pas pour but la connaissance des peintres, mais de la nature. Très rapidement, on peut saisir dans le développement de son œuvre dessinée et peint quelle signification structurelle il lui attribue. Le paysage est pour Bruegel ce que la perspective géométrique était pour les Florentins du Quattrocento, un système d'interprétation figurative du monde. De ce paysage, chaque trait constitutif peut se métamorphoser instantanément en figure humaine. Mais l'inverse aussi peut se produire. Et son œuvre apparaît bien comme une sorte de récit, à la fois lyrique et ironique, de la potentialité figurative du plus petit fragment de nature.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'art et la matière. Et je suis avec Sandrine Vézilier-Dussard, directrice du Musée de Flandre, et Michel Wiemans, qui est professeur d'histoire et théorie de l'art, qui vient de sortir un bouquin extraordinaire sur Bruegel, qui sort d'ailleurs opportunément au moment de la grande exposition de Vienne. Et nous sommes en train de parler effectivement de Bruegel et d'un moment crucial, juste après qu'il ait été élu membre de la Guilde de Saint-Luc, c'est comme ça que ça s'appelait, oui, à cette époque-là. Hein, et bien, il fait ce voyage en Italie. Et Roland Recht nous dit, quelque chose que vous confirmez dans le livre, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord Sandrine, c'est que ce goût pour le paysage dans son voyage en Italie, qui le singularise, le conduit à avoir une interprétation de la nature un peu particulière. Qu'est-ce que vous en pensez Michel ?
L'interprétation particulière de la nature que propose Bruegel, encore une fois, je pense qu'elle est... Elle est imbibée par cette conception de la nature comme livre, par une tradition chrétienne. C'est là que l'idée de paysage autonome est pour moi problématique. Hein, c'est une notion que nous discutons dans le livre.
Dans le livre, vous évoquez ces rochers que l'on voit quand il est à Tivoli, etc., et qui se transforment, qui deviennent des monstres, qui au fond des acteurs moraux du paysage.
Oui. Alors là, c'est tout un...
Allez-y,
en fait, c'est le sujet de mon essai, hein, que j'ai appelé image piège. Et en réalité, il faudrait dire que ce très beau livre publié par Azan est le troisième volet d'une sorte de triptyque flamand, puisqu'il fait suite à un livre que j'ai écrit sur un peintre de paysage qui s'appelle Érymée de Blesse. Et il fait suite au livre écrit par Reinhard Falkenberg sur le jardin des délices de Jérôme Bosch. Et dans ces deux livres, nous avons été très attentifs à la manière dont ces peintres ont développé ce procédé visuel qui consiste à cacher, anthropomorphiser les rochers, des morceaux de la nature. Alors évidemment, il y a une tradition que vous connaissez.
C'est quelque chose qu'il faisait même en Italie, Mantegna a fait ça,
que
par
Bruegel a probablement vu en Italie, chez des peintres italiens, et qui renvoie à une catégorie particulière de ce que j'appelle d'une manière générale l'image double. C'est-à-dire, cette catégorie, c'est celle de l'image naturelle ou accidentelle. l'idée que la nature elle-même peint, et les peintres, en retour, peignent la nature peignant, la nature créant accidentellement des images. Mais il y a une autre tradition qui vient de Jérôme Bosch, et qui est un petit peu plus, qui est, on pourrait dire, la part plus sombre, qui correspond à l'idée que le livre de la nature est déformé par le diable, et donc modifie, transforme, rend chaotique l'ordre de la création jusqu'à perturber donc les différents ordres de la nature, les différents ordres de la création, et à mélanger le registre animal, végétal, humain et naturel.
Sandrine, vous ne trouvez pas que dans ces tableaux, il y a la nature, elle est parfois hostile, parfois merveilleuse, parfois diabolique, parfois réelle. Est-ce qu'il y a pas une, est-ce que c'est pas le terrain d'une lutte entre des forces différentes?
Exactement, oui. C'est le paysage est quelque chose de très complexe. C'est un paysage aussi, je pense, mouvant. En tout cas pour le paysage flamand. On a parlé tout à l'heure des paysages avant Bruegel, qu'on appelle le paysage cosmique, c'est-à-dire idyllique, où il y a toutes les composantes. Bruegel, quand même, je pense, s'en détache de cette première période. Et oui, on peut voir dans les paysages de Bruegel des formes fantastiques. On peut les interpréter comme cela. Mais je pense que ce qui est juste, c'est de voir que dans cette nature, il y a la présence divine. Ça, c'est évident, on est au XVIe siècle, on n'est pas du tout déconnecté du religieux.
Non.
C'est pour ça que le terme de paysage autonome, là je vous rejoins Michel, il n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une autonomie qui se crée puisque le sujet religieux n'est pas au premier plan. Mais en exaltant la grandeur de la nature, on exalte Dieu, bien entendu. Et ce qui est fascinant avec Bruegel, c'est qu'il y a la liaison finalement entre l'homme, le paysage, et Dieu, ce qu'on n'avait pas avant, puisqu'on avait juste le sujet religieux et le paysage. Et donc, je pense que pour un homme du XVIe siècle, le croyant, ben, les œuvres de Bruegel et les paysages de Bruegel sont une merveilleuse entrée en matière pour la méditation.
Oui, parce qu'on a l'impression que chacune des parties des paysages peut être lue, et d'ailleurs les scènes principales dans les paysages de Bruegel sont pas au centre du tableau comme souvent dans la peinture italienne, par exemple, hein, où vous avez une déposition de croix ou je ne sais, en plein centre du tableau. Là, il faut aller chercher dans un fouillis de personnages, de détails microscopiques, de perfection d'ailleurs de détails, le sujet qui parfois est dissimulé dans un ensemble très vaste.
C'est très compliqué finalement de rentrer dans l'œuvre de Bruegel, puisque de prime abord, ça paraît simple. Voilà. On est fasciné, on est emporté par la danse, la mariée. Et puis, il faut s'adapter finalement aux formes bruegeliennes. Il faut s'adapter à la multitude de détails pour finalement tout doucement en percer le sens, tout en recontextualisant dans une époque. Donc voilà, il y a une multitude de strates de lecture.
Dites-moi, vous pouvez, vous qui êtes tenté en permanence par des objets d'amour, vous vouliez absolument nous parler d'un tableau que vous aimez particulièrement, qui est le paysage d'hiver, avec l'adoration des mages. Hein, c'est un tableau qui est à Winterthur. Décrivez-le nous, racontez-nous pourquoi il vous fascine à ce point-là.
Il me fascine parce que on a cette neige qui tombe. Voilà, ces gros flocons, et qu'ils viennent complètement perturber la lecture de l'œuvre. Et là, on est vraiment dans la matière, on n'est plus dans le sens, la signification ou la codification. C'est-à-dire que Bruegel, c'est aussi un peintre de matière, c'est un peintre qui arrive à retranscrire les atmosphères. Il est le premier à avoir représenté la neige qui tombe.
Vous ça paraît tout simple. Vous pouvez nous décrire le tableau globalement qu'on s'y retrouve.
Alors, bah, vous êtes dans un village flamand du XVIe siècle, et dans ce village, vous avez l'arrivée d'une multitude de personnages, ce qui est troublant parce qu'il faut s'habituer. On cherche où elle est l'église, on cherche où est la chaumière. C'est effectivement une adoration des mages, et le sujet religieux, ben, il vous saute pas aux yeux de prime abord. Voilà, il faut habituer votre regard et votre vue. Et ça, c'est une réelle innovation de représenter, alors pas seulement la neige, mais la neige qui tombe. Parce que quand on parle de Bruegel, on pense tout de suite au paysage d'hiver, parce que quand même c'est sa marque de fabrique. Et tout est dans des tonalités finalement en camailleux, avec ces blancs qui ressortent. Enfin, c'est la magie, c'est complètement la magie.
Et c'est vrai qu'il faut aller complètement dans le bas du coin à gauche,
oui,
pour voir
voilà.
petite grange,
voilà.
Dans lequel
Et vous avez une adoration des mages, alors que vous êtes dans un village du XVIe siècle.
Et
ça ne perturbe pas du tout. Et se faites laisser avec un visiteur qui regarde pour la première fois le tableau. Voilà, ça ne perturbe pas d'avoir un anachronisme aussi puissant. Voilà, parce qu'on est dans la neige, on est.
Michel
Wiemans,
vous connaissez bien ce tableau aussi.
Il y a une sorte de paradoxe que décrit très bien le début du livre, où on voit en face de l'enfant Jésus, qui est esquissé d'une manière totalement rude.
C'est brossé, hein, cette partie-là.
Complètement. Et on voit devant son visage un flocon de neige dont on devine pratiquement la structure cristalline. C'est
on a l'impression
absolument...
que c'est le cristal de neige de Kepler.
Exactement. Presque. On ne peut pas être plus dans la matière que dans ce monde paysage. Mais si on regarde attentivement à travers ce voile, qui est là pour brouiller la vision, pour nous troubler... C'est un des procédés visuels, hein, ce voile qui vient devant notre vision, avec la prolifération des détails, mais aussi la marginalisation, la miniaturisation des détails qui sont pourtant les plus importants. Si on regarde attentivement, on voit d'autres détails qui sont peut-être là pour attirer notre attention et qui sont un petit peu moins riants que ces paysages qu'on retrouve souvent sur les boîtes de chocolat à Noël, hein, en particulier celui-là.
Vous voulez dire que, quand vous dites moins riant, vous voulez dire qu'il y a des menaces dans le paysage ?
Il y a des menaces. Très souvent, chez Bruegel, quelque chose sourd, quelque chose de
Par exemple,
menaçant est présent.
Dites-nous quoi ?
Alors ici, c'est un détail qu'il reprend dans un autre tableau qui est peint presque à la même époque, qui s'appelle le piège à oiseaux. Un petit enfant glisse sur sa coque et on ne s'aperçoit
dans une rivière
au dernier
gelée.
Moment sur une rivière gelée. Qui se dirige tout droit vers un trou. Un petit peu plus loin, ce sont des soldats, derrière une espèce de barrière de lance, qui sont probablement, ou qui invitent à voir une sorte d'allusion au massacre des innocents. Autrement dit, il y a quelque chose de beaucoup plus menaçant dans ce paysage qui, au premier abord, est riant.
Est-ce que vous pensez que ça fait allusion à la fragilité spirituelle de l'individu qui est toujours menacé par des dangers spirituels ou des tentations, ou est-ce que c'est simplement la vie quotidienne ? Sandrine ?
Alors, je vais vous paraître très terre-à-terre.
Mais
il y a ce premier niveau de lecture. On est dans une période qui est trouble. On sait, les hivers de 1565-1566 ont été extrêmement rudes. C'est pas une vie facile, le 16e siècle, enfin, le milieu du 16e siècle. Après, nous aurons la révolte des gueux, les tensions religieuses entre catholiques et protestants, la répression.
La répression, c'est pas une blague, c'est 20 000 morts d'un coup,
voilà.
60 000 guerriers espagnols, militaires espagnols qui débarquent.
Vous mouriez parce qu'il y avait la famine, vous mouriez parce que les soldats passaient ravager les champs. Donc c'est une période qui est difficile, et je pense que dans les œuvres de Bruegel, de manière sous-jacente, c'est ça aussi qui transpire. C'est une période où on veut montrer, alors d'un certain côté, la profusion et la richesse du commerce flamand. Et puis, de l'autre, la réalité politique. Et donc, cette tension-là, on la retrouve dans les œuvres de Bruegel. Je dirais aussi que c'est la marque de fabrique aussi des peintres flamands de toujours doser avec une extrême habileté les tensions dans les œuvres. Et l'aspect un peu tragique, il est à l'arrière-plan, il est sous-jacent, il ne saute pas forcément tout d'abord au regard.
Alors, c'est la dureté du monde ou c'est la vulnérabilité de l'âme, hein, Michel Wiemans ?
C'est l'homme aussi. Hein.
Ça peut être...
C'est les deux, oui.
Oui. Ça peut être les deux. Hein. Il y a un proverbe flamand qu'on met en relation habituellement avec cet autre petit paysage sous la neige qui est le trébuchet ou le piège à oiseaux, qui dit « glace fragile, glace du diable », hein, qui évoque l'insouciance de la vie, mais qui est toujours...
Alors le piège à oiseaux, il faut que vous vous rendiez compte, peut-être que vous pouvez décrire le stratagème. Parce qu'on ne se rend pas compte comment il est, ça pourrait être de la glu, ça pourrait être plein de choses, c'est pas ça.
C'est un piège à oiseaux qui était utilisé en Flandre, et bien sûr Bruegel a observé attentivement les pratiques. Il a un regard d'ethnographe C'est une planche avec qui est montée sur un piquet, reliée par un fil jusqu'à une petite fenêtre où on devine l'œil du guetteur. Et bien sûr, les oiseaux imprudents s'avancent en hiver sous la planche pour aller picorer des grains et se retrouvent piégés. Mais
j'étais surpris.
Il y a toujours des corbeaux qui observent à distance.
Voilà, les corbeaux et les pies se laissent pas prendre au trébuchet.
Ils ne se laissent pas prendre. Et dans le trébuchet, ce qui est très beau, c'est que au centre exact du tableau, on retrouve le petit enfant qui se dirige vers le trou dans la glace que personne ne remarque. Il y a au centre du tableau, il y a cette rencontre très belle entre des petits patineurs sur la glace et les silhouettes de corbeaux qui se confondent complètement. Il y a une analogie, véritablement, entre les oiseaux et les personnages. Et donc, c'est ce qui permet de mettre en relation le piège avec l'existence des hommes et d'aller au-delà de l'apparence de ce paysage pré-impressionniste vers un sens allégorique ou moral.
Ce que vous dites, Sandrine, que je pense très intéressant, c'est que c'est les deux.
Il faut y aller par étapes. Voilà, ouais. Il faut digérer, entre guillemets, hein, comme voilà, tout à l'heure on le disait, il faut digérer Bruegel. Mais c'est très important de replacer dans son contexte, parce que voilà, la trappe à oiseaux, c'est une réalité, avec les hivers très vigoureux, les famines, et ben l'hiver, qu'est-ce qu'on mange ? On mange les oiseaux, et donc il faut mettre des trappes. Donc c'est la réalité, c'est le quotidien des hommes. On est en plein humanisme aussi, il faut pas l'oublier, c'est important. Donc il y a une attention particulière qui
est portée. L'humanisme est porté par des grands intellectuels de l'époque.
Comme Erasme.
Bruegel pourrait avoir lu Erasme, par exemple.
En tout cas, il y a des connexions avec l'éloge de la folie. Quand on voit le fou qui est poursuivi par deux enfants, voilà, c'est une référence à Erasme et on le retrouve.
Donc c'est quelqu'un de très cultivé.
C'est quelqu'un de très cultivé. Alors c'est vrai qu'on a eu une vision très réductrice de Bruegel. On l'a réduit finalement à ce peintre qui allait se balader dans les fêtes et les kermesses déguisés. Il n'y a pas d'autre terme en villageois. Il est plus érudit que ça. De toute façon, on le voit bien par cet aspect de codification. C'est un homme qui a encore, je dirais, une jambe. Dans l'époque médiévale, quand on voit tout ce registre, vous avez parlé hein, de cette gueule d'enfer qu'on retrouve dans Dulgrit. Et puis, il y a l'homme de la modernité, il y a l'homme qui, met en image l'humanisme.
Alors, peut-être qu'on va écouter ce que dit Karl von Mander sur les promenades chez les paysans. Écoutons-le.
En compagnie de Frank Hert, Bruegel aimait aller visiter les paysans, à l'occasion de mariages ou de foires. Les deux hommes s'habillaient à la manière des paysans, et de même que les autres convives, apportaient des présents, et se comportaient comme s'ils avaient appartenu à la famille, ou étaient de l'entourage de l'un ou l'autre des époux. Bruegel se plaisait à observer les mœurs des paysans, leur manière à table, leur danse, leur jeu, leur façon de faire la cour, et toutes les drôleries auxquelles il pouvait se livrer, et que le peintre savait reproduire avec beaucoup de sensibilité et d'humour, avec la couleur, aussi bien à l'aquarelle qu'à l'huile, étant également versé dans les deux techniques. Il connaissait bien le caractère des paysans et des paysannes de la campine et des environs. Il savait comment les habiller avec naturel, et peindre leurs gestes mal dégrossis lorsqu'ils dansaient, marchaient, ou se tenait debout ou s'occupait à différentes tâches. Il dessinait avec une extraordinaire conviction et maîtrisait particulièrement bien le dessin à la plume. Karel von Mander, Livre des peintres, 1604.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et nous sommes en train de parler du grand peintre Peter Bruegel. Nous avons sauté directement dans ces paysages qu'il a fait vers les années 1563, soit 1565. Et on l'avait tout à l'heure aperçu revenant d'Italie avec des images de paysages effectivement extraordinaires. Et il y a eu toute une période intermédiaire. Michel Wimans, Sandrine, nous pourrions peut-être en dire un mot. Parce que avant de se lancer dans la description du paysage, il y a eu une période de diablerie, en quelque sorte.
Cette période de diablerie, finalement, elle est présente quasiment tout le long de l'œuvre de Bruegel, de manière visible ou invisible.
C'est peut-être ça la nuance, et que c'est très visible vers 1555 et après, et un peu moins vers 1560, non ?
Je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Elle est très présente dans les œuvres gravées. Il y a aussi un mystère Bruegel, hein. Qui autre, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, il entre dans la guilde d'Anvers en 1551. Il va beaucoup dessiner, beaucoup graver, mais ses œuvres peintes, finalement, où on est sûr que celles sont de Bruegel, elles sont tardives. Voilà, 1559 pour les œuvres vraiment authentifiées. 1557 peut-être, mais voyez, il y a toute cette période où finalement il va dessiner et graver, et c'est dans celle-ci où finalement on a les diableries.
Les diableries, c'est l'influence de Jérôme Bosch qui est Jérôme Bosch est 70 ans auparavant, non ?
Exactement. Jérôme Bosch est toujours présent, mais je pense que Michel, c'est voilà, Michel, je le sens très fini.
Vous qui avez écrit sur Bosch beaucoup.
Alors, je crois qu'il faut rappeler quelque chose qui est très important. C'est la carrière de Bruegel est très courte. C'est un peu plus de 15 ans. Et cette carrière très courte, elle est elle-même plus ou moins divisée en deux périodes. Oui. Après le retour en Italie, il va travailler pour l'éditeur Jérôme Koch, essentiellement en tant que dessinateur. Et ses dessins vont être diffusés en gravure. Ce n'est pas Bruegel lui-même qui grave. Il a gravé une seule forte, mais ce sont des graveurs professionnels. Et ce qui est extraordinaire, c'est que et ensuite, donc, à partir du début des années 60, hein, 59-60, c'est la peinture qui va prendre le pas et sa pratique de dessin pour la gravure va diminuer. Mais ce qui est extrêmement impressionnant, c'est que en l'espace de 6 ans, Bruegel va se concentrer sur 3 projets énormes qui donneront lieu à 3 séries. La première, c'est la série, on peut dire, des paysages. Donc, c'est le retour d'Italie. Et c'est une série qu'on appelle la série des 12 paysages alpestres, hein, qui sont époustouflants, et où Bruegel a mis en place véritablement la matrice de ces paysages qu'il va ensuite exploiter dans ses paysages peints. Ça, c'est 55-56. 56-57-58, en l'espace de 2 ans, c'est, si vous voulez, ce que vous appelez la période des diableries. Il va affirmer sa filiation à Bosch, et on va appeler, dès son vivant, Bruegel le second Bosch. C'est la série des vices, hein, ou des 7 péchés capitaux. Et juste ensuite, il enchaîne encore 2 ans de travail intense pour produire cette série incroyable des vertus. Et les vertus sont mises en scène dans des cadres flamands, hein, ce sont des scènes de genre. Donc vous voyez, en l'espace de 6 ans, le paysage, les scènes bochiennes et les scènes de genre sont mises en place dans son travail de graveur, et ça va ensuite être exploité pendant toute sa carrière en peinture.
Mais vous dites que c'est exploité dans toute sa carrière, mais l'aspect fantastique qu'il y a encore dans les vices, par exemple, disparaît ensuite, parce que il n'y a plus dans les grands tableaux comme le Portement de Croix, l'aspect fantastique est beaucoup plus dissimulé. En tout cas, on a l'impression que il y a un quatrième moment où il devient un réaliste extrême, un réaliste symbolique probablement, mais un réaliste extrême.
Oui, il y a des tableaux donc tout à fait bauchiens, comme le Triomphe de la Mort ou du Le Grit, qui sont peuplés de monstres. Et puis, il y a des tableaux où ce registre disparaît. Mais peut-être que ce que Bruegel retient de Bosch, ce ne sont pas simplement les diableries. C'est une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus insidieuse de suggérer la présence du diabolique dans le monde. Le livre, nous l'avons écrit un petit peu selon 2 axes, qui seraient d'une part l'intérêt de Bruegel et la manière dont Bruegel montre la présence cachée du divin dans le monde et la difficulté de l'humanité à voir les signes du divin, la présence du divin. Et l'autre, ce serait sur la présence cachée du diabolique dans le monde. Et c'est là qu'on passe du registre du diabolique explicite à un registre diabolique beaucoup plus sourd, beaucoup plus implicite, beaucoup plus potentiel, mais qui est présent chez Bosch et que Bruegel a parfaitement compris.
Sandrine, vous le sentez, cette dernière période qui se modifie, où le diable se cache d'une certaine façon ?
tout s'entremêle après dans les œuvres peintes de Bruegel. Effectivement, il y a des œuvres où, comme Dulgrit, ça c'est un chef-d'œuvre de Bruegel, où on sent véritablement la filiation avec Bosch.
Dulgrit, c'est une grande dame.
Une grande dame au centre, folle. Parce que voilà, Dulgrit, Dulce, c'est l'enragée. Enfin, elle est dans les flammes. Elle a juste à côté les femmes qui se battent. Donc on a vu à un moment donné, voilà, une transposition en disant, bah, c'est les femmes qui prennent le pouvoir en quelque sorte. Et puis il y a des tableaux plus énigmatique, réaliste, mais plus énigmatique. Je pense à La Pie sur le gibet, qui est une des dernières œuvres de Bruegel, où vous avez ce paysage, alors là, d'un extrême réalisme. Tout est vibrant. De toute façon, l'œil est captivé par le paysage. Et ben, vous êtes tout en haut d'un promontoire où il y a un gibet. Il n'y a pas de pendu, il n'y a rien. Il y a une pie, qui est sur le gibet, une pie au sol. Et puis, vous êtes entouré par un paysage, mais alors chatoyant, verdâtre. On s'y sent bien, c'est paisible. Et au pied de ce gibet, des villageois dansent.
Mais c'est un côté est in Arcadia ego. La mort est aussi, elle rôde aussi.
Voilà, la mort et la vie. À côté, vous avez alors un personnage. Excusez-moi la familiarité, mais c'est dans le registre de Bruegel, un chieur.
Un cagueur.
Voilà. Mm-hmm. Un peu caché d'ailleurs. Il est toujours un peu caché. Et puis dans le lointain, on retrouve le village.
Ça chie beaucoup chez Bruegel.
Ah oui, ça. Oui, les chiens
parfois,
aussi.
Parfois de l'or, parfois des pièces, parfois les chiens évidemment dans la chasse dans les saisons. Vous n'avez pas parlé encore du cycle des saisons, c'est quand même un des cycles les plus extraordinaires qui soit, qui a été commandé très précisément, dont on a presque tous les éléments, 5 tableaux restent sur les 6. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors c'est un...
Parce que ça va nous amener aussi à ce chien, Michi, qui a 5 pattes.
Voilà, vous avez bien regardé attentivement. Donc le cycle des saisons est important parce que c'est un cycle qui a été, on a des documents commandités par Nicolas Jongerling, qui était un grand banquier collectionneur d'Anvers, et qui a commandé à Bruegel ce cycle pour décorer sa villa qui se situait dans la campagne, à côté d'Anvers. Et on sait également que Jongerling n'avait pas un goût uniquement pour la peinture de Bruegel, mais aussi pour les romanistes. Et dans cette villa...
C'est quoi les romanistes ?
Les romanistes, ce sont justement ces fameux Fiamminghi, mais qui sont revenus d'Italie avec
les Flamands
des modèles italiens qu'ils voulaient diffuser comme le modèle à imiter. Et le frère ennemi, je dirais, le grand rival de Bruegel s'appelle Franz Floris. Et Floris a décoré lui aussi la villa de Jongerling avec un grand cycle sur le thème des arts libéraux et un autre sur le thème de la vie d'Hercule, les combats d'Hercule. Donc dans un style évidemment tout à fait opposé à celui de Bruegel.
Alors nos saisons.
Alors le cycle des saisons est mentionné très tôt dans les inventaires, donc comme un cycle de 6 tableaux, parfois de 5 tableaux. Donc on a assez tôt compris que chaque tableau correspond à 2 mois de l'année, que chaque tableau met en scène les activités des saisons. C'est une image de l'harmonie entre les activités des hommes et le cycle
cosmos,
des saisons et le cosmos.
Ouais.
Mais ça va bien plus loin que ça.
On a ça sur toutes les cathédrales. Sur
ça,
toutes
si
les cathédrales,
voulez,
on a les travailleurs et les jours.
Voilà, ça existait. Bruegel s'est inspiré.
On doit tout ça à Adam, ce méchant garçon à cause duquel on travaille encore aujourd'hui, à l'instant même.
Exactement. Ça vient aussi des enluminures que Bruegel a peut-être connues, en tant qu'il a été formé comme miniaturiste avec Meken Ferulst. Mais il faut aller au-delà de cette image du paysage autonome, de l'image de l'harmonie des activités des hommes et des saisons, et voir ce cycle dans une perspective eschatologique ou christologique, puisque le point commun, et c'est l'analyse que nous proposons dans ce livre, le point commun de ces tableaux, c'est que dans chacun, on retrouve cette idée de spéculation, c'est-à-dire l'idée qu'il faut voir à travers la nature des signes à la fois de la grandeur du divin, mais aussi de son intention salvatrice.
De l'action du bien et du mal. Peut-être on va écouter la façon dont vous parlez de cette façon de le regarder dans le livre. C'est un petit texte de vous, Michel Wimans.
C'est un monde paradoxal et contradictoire que celui dans lequel nous vivons. Et Bruegel a développé des stratégies picturales qui font apparaître ces ambiguïtés sous des formes elles-mêmes ambiguës, parmi lesquelles la marginalisation et la miniaturisation de détails significatifs, les zones troubles et indéterminées de l'image, les paradoxes et les pièges visuels. Elle défie le spectateur et son pouvoir de perception, mettant à l'épreuve son aptitude à voir le monde, l'humanité et la présence des forces du bien et du mal, dans une oscillation incessante entre vision corporelle et vision spirituelle, apparence trompeuse et vérité cachée, aveuglement et discernement.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de parler de Peter Bruegel et avec la directrice du musée de Cassel et un grand professeur d'histoire de l'art, Michel Wimans, qui vient de sortir un bouquin extraordinaire sur Bruegel qui vient d'être publié chez Hazan. Nous parlions, Michel, des saisons, ce cycle de six tableaux, il n'en reste que cinq, extraordinaires, et dans lesquels vous avez froid en hiver quand vous le regardez, vous avez chaud l'été, vous travaillez difficilement en février, etc. On ressent physiquement chacun des moments de ces tableaux. Vous étiez en train de dire, et on l'a entendu dans votre texte, que il y avait en permanence dans ces tableaux un équilibre entre le bien et le mal, entre le danger et la volupté, ou sinon la volupté, en tout cas la réalité, et qui n'est pas toujours voluptueuse, en effet. Et on peut les lire comme ça, n'est-ce pas, Sandrine ?
Oui, et puis ce paysage avec le retour des chasseurs au premier plan.
Alors là, on regarde les chasseurs dans la neige. Nous sommes
quoi ? Du musée de Vienne.
On est en décembre.
C'est la période de décembre-janvier.
Décembre-janvier, allons-y. Voilà.
Et qui est au musée de Vienne, est déjà prodigieux par rapport à la gamme chromatique. C'est-à-dire qu'il a utilisé très peu de couleurs.
Incroyable.
Il joue beaucoup sur les contrastes entre les blancs et les noirs, le noir des arbres, le noir aussi des petits personnages qui glissent sur la glace, qui pourraient ressembler d'ailleurs à des corbeaux. On a l'impression d'avoir quelque chose d'assez angoissant finalement dans ce paysage. Et puis il y a cette neige qui est pas tout à fait blanche. C'est très compliqué hein, de représenter la neige. Et avec les traces, je trouve que c'est aussi intéressant, les traces que l'on laisse dans la neige, qui est un peu boueuse. Vous avez dit hein, ce fameux chien qui est en train de déféquer. Alors, par rapport à cette neige immaculée, je pense que la Michel développera le sens. Et puis l'auberge à gauche, avec le feu, l'aspect quotidien, on est en train de voilà.
Ils sont pas très bons les aubergistes parce que ils ont laissé leur enseigne brinque-ballée.
Ah oui, là, elle est prête à tomber. Alors, c'est peut-être un signe de fragilité aussi.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette enseigne, Michel ?
Alors, c'est un de ces détails absolument cruciaux hein, pour comprendre le tableau, puisque ça représente Saint-Hubert ayant la vision miraculeuse du Christ.
Le patron des chasseurs.
Le patron des chasseurs, qui eux reviennent tout à fait penauds. Ils ont attrapé un renard.
Ça se mange pas très bien les renards.
C'est une vision
ironique. Pas grand chose.
Et puis, sur cette enseigne est écrit Indenhert, qui veut dire l'auberge au cerf, mais c'est un jeu de mots, parce que Indenhert, c'est aussi dans le cœur. C'est-à-dire que Saint-Hubert...
Dans le cœur
Dans le cœur, à l'intérieur du cœur. Saint-Hubert est celui qui porte le Christ dans son cœur. Et évidemment, ce détail est là pour créer un contraste avec ces paysans qui passent, qui sont indifférents à ce signe hein, de la présence du divin dans le paysage et qui se dirigent lentement, comme dans un mouvement de
chute. Ils rentrent chez eux ou quoi ?
Ils rentrent chez eux, en tout cas.
Certainement.
Ils descendent. Oui. Il y a un mouvement vraiment de chute, on pourrait dire. Ils descendent vers la droite, là où se trouve la scène de patinage. Et encore une fois, Bruegel, c'est ce qui m'a intrigué, a placé à deux reprises dans ce paysage un piège à oiseaux. En plein cœur du paysage, il y a un piège à oiseaux.
Vous êtes un passionné du trébuchet, hein, je vous ai entendu tout à l'heure en parler.
Complètement. Mais le piège ici, ce serait en réalité de ne pas voir les pièges visuels que Bruegel cache dans son paysage. Et en l'occurrence, je rapporte ce moulin complètement fantastique, avec des stalactites qui évoquent une gueule béante, hein, une fenêtre qui ressemble à un œil et que l'on peut comparer à des petites maisons anthropomorphes qui sont situées tout autour, à une présence, encore une fois, cachée, insidieuse, à un piège, donc à l'intérieur du monde qui semble riant et où les gens sont en train de...
En fait, il y a des traces, il y a des signes qu'ils ne voient pas. Et parmi les signes qu'ils ne voient pas, il y a les traces du lapin. Hein, oui, il y a ça, ou d'un lièvre, d'un lièvre peut-être.
Qui conduit vers ces tronces incroyables sous laquelle Bruegel a caché sa signature. Il y a tout un réseau de motifs qui renvoient à l'idée de traces, hein, de vestiges ou de quelque chose qui nous dirige vers une face moins riante sous ce manteau, sous ce masque de la neige.
Il y a des anecdotes aussi, Sandrine, qui sont marrantes. Hein. Par exemple, il y a des maladresses des personnages. Les personnages sont maladroits, ils sont en train de mettre le feu à la maison d'à côté.
Mais presque, oui. Puis l'enseigne, elle va bientôt prendre feu parce qu'elle va tomber. Il y a aussi un côté, je pense, un peu ironique de Bruegel. C'est-à-dire qu'il y a ces chasseurs qui reviennent bredouilles. Et en même temps, il y a cette enseigne qui est prête à tomber et qui met quand même en exergue Saint-Hubert et la chasse. Donc, il y a aussi cette petite dimension ironique qu'il ne faut pas oublier de Bruegel, qui vient un peu temporiser aussi tous les drames qui peuvent se tramer.
Oui, parce qu'il y a du grave et il y a du léger.
Oui, toujours. Ouais. C'est ça aussi. C'est le tempérament flamand.
Et il y a une maison qui brûle, je sais, quelque part au fond, perdue, et visiblement ils s'y prennent mal pour éteindre le feu.
Oui, apparemment, oui. Le feu va continuer.
Hein, il y a un feu de cheminée, c'est-à-dire ils ont pas ramené. Hein.
Voilà, pas ramené. On est dans le quotidien aussi, d'une
certaine
manière. Sauf
qu'ils essayent d'éteindre le feu par le haut, alors que...
Ça n'a pas bien marché.
Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que ces trois arbres, c'est à Golgotha, par exemple?
Oula, moi j'irai pas jusque là. Je pense que voilà, les trois arbres, ils sont là véritablement pour faire une entrée en matière, comme une haie d'honneur ces chasseurs. Bruegel est un maître dans la composition, dans les rythmes du paysage, et ça, il faut absolument pas l'occulter.
C'est pas vous qui l'avez dit, les trois arbres, hein. C'est moi qui déduisais ça, parce que j'essaye de suivre votre méthode, et du coup je me plante alors que vous ne vous plantez pas. Et ça me plaît parce qu'au fond, il y a quand même un aspect extrêmement ouvert dans les tableaux de Bruegel. Vous pouvez aller loin dans l'interprétation, et si vous n'y allez pas, vous avez quand même beaucoup de plaisir.
Vous savez ce qui est fascinant dans ce tableau, et c'est pour ça qu'il attire le public un peu comme des papillons attirés par la flamme d'une chandelle, c'est que la lumière semble irradier de la neige. C'est un tableau extrêmement lumineux.
C'est comme dans le paysage à la trappe aux oiseaux, la lumière, elle vient de la neige aussi.
Oui. Donc, et ça participe au mystère, à l'ambiance de mystère de ce tableau.
Vous pensez que Bruegel, à cette époque-là, est un des très grands peintres de cette région du monde?
Le plus grand. Alors là, on est d'accord.
Je savais que j'arriverais à vous mettre d'accord, mais vous êtes tout à fait d'accord. Et je dois dire que ce soit en voyant l'exposition de Vienne, et vous avez encore, je pense, quasiment 2 mois pour y aller, ou en lisant ce livre extraordinaire, vous avez l'occasion de le découvrir. J'ai remarqué que quand même dans le livre, vous ne parlez pas de la Tour de Babel, qui est pourtant attendue.
Oui, on s'est concentré, on voulait dans ce livre... proposer une sorte de, je dirais pas de méthode, mais en tout cas de manière de regarder mise en scène par Bruegel. Et donc nous sommes concentrés sur quelques exemples, nous n'avons pas pu tout aborder.
Michel Wiemans, merci mille fois. Vous avez éclairé les amateurs et ceux qui ont envie de connaître Bruegel dans ce livre. C'est passionnant. Sandrine Vézilier-Dussard, merci d'être venue nous rejoindre. Madame la directrice, nous allons tous à Cassel dans quelques jours pour votre exposition.
Bien.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose... et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Sandrine Vézilier-Dussard, directrice du musée de Flandre à Cassel, dans les Hauts-de-France, et Michel Wiemans, co-auteur du Bruegel chez Azan et qui nous entraîne, effectivement, comme le dit Magritte, au-delà du visible. Ceci à l'occasion de la très grande exposition du Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui est ouverte jusqu'au 13 janvier prochain, et au livre Bruegel, publié chez Azan. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Guillaume Ledu, évidemment, réalisation Doria Zénine, merci Doria, lecture des textes Olivier Martineau. Et chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot, bien sûr, pour son émission Une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.